C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 9 avril et aujourd'hui on est à l'université de Caen en direct pour parler du Turfu Festival qui vient de démarrer hier et qui se tiendra jusqu'à samedi.
Le Turfu, c'est 6 jours de rencontres, d'ateliers, de discussions pour questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain.
Et aujourd'hui on reviendra sur ce qui va se passer lors de cette édition 2024 du festival. Pour en parler, nous serons avec Marie-Lou Vernel, chargée de projet de culture scientifique à l'Université de Caen, Nicolas Houlage, technicien en médiation scientifique à l'Université de Caen, mais aussi Audrey Hamon et Théodore Vignot, étudiants du master information, médiation scientifique et technique.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Jeudi dernier, des députés ont adopté à l'unanimité une loi sur l'interdiction des polluants éternels.
Oui, ces substances toxiques, aussi appelées PFAS ou encore polyfluoroalkylées. Et l'Assemblée nationale a donc adopté la semaine dernière cette proposition de loi portée par la liste Europe Écologie Les Verts. Résultat, les cosmétiques et les vêtements contenant des PFAS sont interdits à la vente d'ici le 1er janvier 2026. Pour les textiles contenant ces polluants, il faudra attendre 2030. L'eau sera aussi contrôlée pour endiguer ces contaminations qui sévissent dans plusieurs régions depuis des années. Seule dérogation, les ustensiles de cuisine et les vêtements de protection, parce que selon les élus de droite, les interdire serait synonyme de risque pour l'emploi, ce qui à gauche a bien sûr fait réagir.
Et ces polluants, pourquoi ils sont dangereux ?
Eh bien parce qu'ils sont contenus, on l'a vu, dans beaucoup de produits de notre quotidien, créés dans les années 40 et vantés pour leur ultra-résistance. On remarque depuis plusieurs années qu'ils polluent autant notre réseau sanguin que les fonds marins. Conséquence pour notre corps, par exemple, l'augmentation du taux de cholestérol, des effets sur la fertilité et sur le développement du fœtus, ou encore des risques accrus de cancer. Une découverte étonnante en astronomie, un possible arc-en-ciel gigantesque observé sur une exoplanète.
Et c'est ce que semble avoir détecté le télescope spatial européen KEOPS, et cela se passe sur la planète gazeuse WASP-76b, planète qui se situe à 37 années-lumière de la Terre. Et ce phénomène d'immense arc-en-ciel, il porte un nom, GLORY. Alors on dit arc-en-ciel, mais dans ce cas, il s'agit plus d'une forme circulaire.
Et ce phénomène GLORY, est-ce que c'est quelque chose de fréquent ?
Non, c'est très rare. La dernière fois qu'un GLORY extraterrestre a été observé, c'était en 2011 sur la planète Vénus. Mais il est important de souligner que les scientifiques doivent mener d'autres observations pour complètement s'assurer que ce qui a été aperçu sur WASP-76b était bien un GLORY extraterrestre. L'eau minérale des bouteilles du groupe Nestlé n'est sans doute pas aussi pure qu'on le croit.
Oui, si la qualité de la Seine n'est pas optimale à quelques mois des JO, c'est aussi le cas des eaux minérales du groupe Nestlé, et ça c'est un peu moins normal. Épar, Contrex, Vittel ou encore Perrier, la qualité de ces eaux n'est pas garantie, c'est en tout cas ce qu'indique l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Elle révèle notamment des bactéries coliformes, et des entérocoques, qui correspond à une contamination d'origine fécale. L'ANSES note également la présence de contaminants chimiques, notamment des pesticides.
Et en quoi est-ce que cette révélation elle est grave ?
Et bien parce qu'au-delà de la contamination, ce dont est accusé le groupe Nestlé, c'est d'avoir dissimulé ses produits contaminés. Pour continuer à commercialiser ses bouteilles, il avait recours à des procédés de purification interdits. Or, qui dit eau minérale, dit normalement eau non filtrée. Une enquête préliminaire a été ouverte et l'ANSES recommande au ministère de la Santé un plan de surveillance renforcé. C'est une prouesse technologique, l'IRM le plus puissant au monde dévoile ses premières images.
Il s'appelle Isult, il est français, et comme tu l'as dit, ce scanner IRM est le plus puissant du monde. Et mardi dernier, il a dévoilé ses premières images de cerveau humain, des images qui seraient 10 fois plus précises que celles fournies par les IRM classiques que l'on trouve dans les hôpitaux. Pour Nicolas Boulan, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique, c'est un peu comme si on passait d'une photo floue à une image nette.
Et on imagine que ce nouvel outil va grandement aider la recherche.
Oui, forcément, et en particulier en ce qui concerne les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer, mais aussi les maladies psychiatriques. Mais avant cela, les chercheurs vont continuer d'observer des cerveaux de volontaires avant de se pencher plus en détail sur ceux des malades. Aux États-Unis, fini les tests classiques de détection des MST, tout est désormais possible via une simple photo.
C'est en tout cas ce que promet Calmara. En prenant une photo de son pénis, l'application serait capable de détecter la présence potentielle d'une maladie sexuellement transmissible. Si je dis pénis, c'est parce que cette fonctionnalité ne marche malheureusement qu'avec les hommes, en tout cas pour l'instant.
Et est-ce que ça marche vraiment alors ?
Ah bah c'est le bémol, si on avait une solution miracle et infaillible, ce serait bien connu. En tout cas, ce n'est pas celle-là, les résultats sont aléatoires. D'abord parce que tout MST n'est pas forcément visible, mais aussi parce que Calmara prend parfois pour les infections des taches bénignes. On estime sa fiabilité à environ 65%.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
On est toujours en direct à l'université de Caen pour une émission spéciale consacrée au Turfu Festival, un événement organisé par le Dôme, l'université de Caen et Tannelorn. Pendant une semaine se tiendront des rencontres, des ateliers et des discussions pour questionner l'innovation et contribuer à réinventer la société de demain.
Et pour en parler, nous sommes avec Marie-Lou Vernel, bonjour. Vous êtes chargé de projet de culture scientifique à l'université de Caen et vous êtes accompagné de Nicolas Houlage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes technicien en médiation scientifique au SUAC.
Et pour compléter ce plateau, nous sommes aussi avec Audrey Hamon et Théodore Vigneault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant du master information, médiation scientifique et technique. Alors pour commencer, je me tourne plutôt vers Marie-Lou Vernel et Nicolas Houlage. On vient rapidement de tenter d'expliquer ce qu'est le Turfu Festival, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement ?
Ben, le Turfu Festival, c'est un festival de recherche participative, donc c'est-à-dire un festival qui place la science à l'écoute des enjeux et des besoins sociétaux, donc qui essaie de donner la place aux citoyens, aux côtés des chercheurs, dans un objectif de co-construction des connaissances.
Est-ce que vous vouliez peut-être en rajouter un peu plus
Oui, donc c'est un festival, comme vous avez pu le dire, donc, qui se passe à Caen du 8 au 13 avril, à Caen et plus large encore, puisque ça s'étend en Normandie. Les lieux canés principaux sont le Dôme et l'Université de Caen, mais il y a aussi plusieurs partenaires locaux tels que la Comédie de Caen, le CDN, ainsi que le Café des Images, le Centre socio-culturel des Rouville-Saint-Clair, la Maison de la Forêt à Cerisy. Et j'en oublie sans doute. Voilà, il y en a énormément. Et effectivement, il y a notamment aussi des ateliers qui se déroulent à Rouen, à Cherbourg. Donc ça, c'est partout en Normandie.
Alors cette année, c'est la 8e édition. Comment est-ce qu'il est né, ce festival ?
Alors c'est à l'initiative du Dôme, préalablement nommé le Relais de Sciences, donc qui est un lieu canet centre de culture scientifique à Caen. Et effectivement c'est la 8e année et c'est la 2e année consécutive que l'Université de Caen est coproducteur, notamment dans le cadre de ses actions SAPS, donc Science avec et pour la société. C'est un label national qui nous a été décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et qui distingue notamment l'établissement pour son engagement dans une stratégie de diffusion de la culture scientifique et du dialogue avec la société, donc pour 2021-2024. Et donc il y a plusieurs actions, choses qui peuvent être développées, notamment justement la création du master IMST dont sont issus les étudiants ici présents. Et aussi voilà, plusieurs projets, on participe notamment au Village des Sciences, à la création d'un pôle de culture scientifique à l'Université de Caen, dont Nicolas et moi sommes issus. Voilà.
Et le festival, il s'adresse à un public en particulier ou c'est quelque chose de large pour tout le monde ?
Il s'adresse à tout public. Le but étant de construire les connaissances avec la société civile, entre gros guillemets, pardon. Il s'adresse réellement à tout le monde. Tout le monde est invité à participer et au contraire, plus il y a de monde, mieux c'est.
Et l'idée, c'est effectivement que... Enfin voilà, on peut être tout à fait novice, ne pas du tout connaître un projet, une thématique, un domaine scientifique, mais avoir envie, être curieux. C'est ouvert à tous les curieux.
Et puis on peut imaginer que selon l'atelier aussi, on aura peut-être un public différent qui viendra. Et même vous, les étudiants du master, vous êtes aussi là pour, j'imagine, vous adapter en fonction des publics.
Oui, tout à fait. Il y a plein d'ateliers différents qui ont été créés et conçus par nos soins en tant qu'étudiants de ce master. Et typiquement, moi, l'atelier dont je suis le responsable est destiné à un public plutôt senior parce qu'il s'intéresse à la prévention des risques de chute dans l'environnement urbain. Du coup, là, ça va plutôt parler aux seniors, mais sinon, il y a d'autres ateliers qui sont plus destinés à des publics familiaux, à des publics d'étudiants ou d'étudiantes.
Et alors, il est écrit sur la présentation de l'événement que cette année, le Turfu Festival est tourné vers le vivant. Ça veut dire quoi ? Ça comprend quel thème et pourquoi plus le vivant cette année qu'une autre édition ?
Alors, cette année, c'est par rapport à toutes les rencontres qu'on a pu faire avec les différents porteurs de projets. C'est cette ligne-là qui est ressortie, cette idée première. L'idée, le grand thème aussi de cette année, c'est aussi l'idée de... entretenir sa santé, son bien-être, son environnement, et aussi s'entretenir autour de thématiques, d'échanger avec les gens, de débattre, de partager son vécu, ses expériences. Et donc par rapport aux thématiques, les grandes thématiques de cette année sont à première vue plutôt le climat, l'environnement, la santé, mais ça touche aussi des thématiques telles que l'urbanisme, la biodiversité, l'intelligence artificielle, les jeux vidéo. On a des ateliers à l'université qui vont se baser aussi sur, qui s'appelle Naturellement Fromage, sur le camembert cru, sa production, ses spécificités et sa mise en avant auprès du public, sur l'éthique animale, sur...
La recherche de nouveaux antibiotiques aussi.
Voilà, c'est très large. Il y en a notamment Se souvenir des forêts qui est demain toute la journée à la forêt de Cerisy, donc là qui est un petit peu excentrée, et qui invite le public à notamment venir avec sa connaissance, ses souvenirs de cette forêt et de les partager auprès des chercheurs pour pouvoir aussi avoir une idée et un projet autour de l'histoire de cette forêt, des métiers qui la traversent, de comment est-ce qu'elle a évolué parmi toutes ces années. Mais ça touche vraiment beaucoup de domaines et il y en a pour tous les goûts.
Vous aviez insisté sur le fait que l'aspect santé, prendre soin de soi, était central cette année dans les thématiques. Est-ce que c'est aussi pour faire un pont avec d'autres événements sciences et sociétés comme la fête de la science qui était cette année beaucoup axée sur le sport? Est-ce que c'est aussi pour créer des ponts entre ces événements?
Alors effectivement, là ça crée un pont. Mais c'est pas une volonté de notre part, on n'a pas une ligne directrice dans la programmation quand quand on lance le Turfu. L'idée c'est vraiment que c'est un appel à projet, donc jusqu'en décembre les différents appels porteurs de projets ont présenté leur dossier. Il y a une rencontre qui a pu être faite avec chacun d'eux aussi dans l'idée de se dire est-ce que c'est bien de la recherche participative et non pas seulement de la médiation scientifique. Et est-ce que, à quel point, comment ils envisagent leur atelier, comment ils envisagent leur déroulé, à quel point la participation du public peut être aussi et importante et enrichissante pour leur projet. L'idée, c'est vraiment que c'est des temps de partage, on n'est pas dans des ateliers descendants.
Oui, c'est ça qui fait vraiment la différence entre recherche participative et médiation scientifique, c'est le côté participatif pour le coup.
Oui, c'est ça. C'est effectivement l'idée. En fait, il y a différents... niveau dans la recherche participative, ça peut être juste de la collecte de données, avoir besoin du public pour faire remonter des données, mais ça peut aussi être des ateliers qui sont vraiment pensés déjà de leur création avec les porteurs de projets. Ça peut être des remontées de problématiques de société que fait le citoyen. Il y a notamment ce soir, ça fait écho à une des soirées du Turfu qui est la première de... Dans le cadre du lancement du Turfu à l'université, il y a une soirée ce soir qui est sur la recherche participative et la santé, en deux parties, avec une première partie avec différents intervenants, qui est justement l'idée de pouvoir être dans un échange avec le public sur qu'est-ce que la recherche participative et notamment en santé. Donc on parle ici de santé communautaire. Qu'est-ce que ça induit? On va avoir notamment la présence de Bruno Spire, qui est un médecin épidémiologiste directeur de recherche à l'INSERM, Hélène Beaunieu, qui est professeure de neuropsychologie à l'Université de Caen, et Eliott Sévricourt, qui est psychologue et formateur du centre LGBTI de Normandie. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur toutes ces thématiques-là. Donc, s'il y a des curieux et qui sont disponibles ce soir, c'est l'occasion de venir découvrir qu'est-ce que la recherche participative, et notamment en santé.
Alors, vous avez commencé d'évoquer quelques aspects de la programmation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui va être présenté durant cette semaine? Quels sont les ateliers, les temps forts qu'on va pouvoir retrouver?
Bien, dès demain, on va pouvoir retrouver l'atelier Collecte du microbe, qui est un atelier... dont l'objectif va être la découverte de nouveaux antibiotiques, donc via un dispositif que tout le monde peut utiliser chez soi pour cultiver des micro-organismes qui ne sont pas cultivables en laboratoire, mais cultivables chez tout un chacun. Et le but de cet atelier va être de participer au développement de ce kit, en tout cas de l'amélioration de ce kit, pour que tout le monde puisse l'utiliser chez soi de façon ludique et puisse renvoyer ses collectes au laboratoire pour permettre aux chercheurs d'étudier de nouveaux micro-organismes et potentiellement découvrir de nouveaux antibiotiques.
Et est-ce qu'il y a des nouveautés cette année par rapport aux précédentes? Est-ce qu'il y a des invités un peu inédits ou des ateliers qui prennent une forme qu'on n'avait pas vue auparavant et que vous avez développé cette année?
Alors, sans doute, il s'avère que nous, on est arrivés en janvier dernier, donc on n'a pas non plus tout l'historique en tête.
Je dirais que c'est de la recherche participative, donc en soi, de base même, ça peut prendre n'importe quelle forme. Donc je dirais que toute édition du Turfu est différente les unes des autres.
Et puis de par les sujets aussi scientifiques qui sont abordés par les porteurs de projets, les différents laboratoires qui interviennent et qui portent les projets.
Alors, vous l'avez dit, plusieurs personnalités publiques seront présentes durant ce Turfu Festival. Vous avez cité notamment Bruno Spire ou encore Victoire Tuaillon. Comment est-ce que vous les avez choisis et pourquoi vous avez décidé de les faire venir? Est-ce que c'est uniquement par cohérence du thème? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est notamment en lien avec le Dôme. Effectivement, ça peut être soit des gens qui ont déjà intervenu lors de précédentes éditions, en tout cas qui interviennent sur différents projets, autres ateliers, autres liens qui ont pu être faits notamment avec le Dôme. Là, effectivement, Bruno Spire, c'est notamment par rapport à la thématique où il nous a semblé que c'était un acteur important. Après, effectivement, c'est comme Hélène Bognot et Elliot Sévricourt qu'on a sollicité pour la soirée de ce soir. C'est aussi l'idée de valoriser les acteurs locaux, les gens qui travaillent sur ces thématiques-là, les projets scientifiques qui sont au cœur, au cœur de l'activité et qui sont en développement, notamment en Normandie. Donc c'est vrai que nous, je parlais de la soirée de ce soir, mais il y a aussi, par exemple, un spectacle qui aura lieu jeudi soir à la MDE, donc AFK, Away from the Keyboard, désolé pour l'accent. L'idée, c'est effectivement aussi de pouvoir aborder la thématique donc là, du poids du numérique dans la vie de chacun. Et l'idée, c'est de pouvoir agrémenter cette découverte ici artistique par un échange avec une personne qui est spécialisée, expert dans la thématique. Donc là, on a sollicité Fabrice Morel, qui est notamment responsable du master informatique de l'Université de Caen, pour aussi pouvoir échanger avec les forces en présence qu'on a à l'université.
Et en quoi est-ce qu'un événement comme le Turfu va remplir les objectifs que se fixent des structures comme le Dôme ou l'Université de Caen? Bon, là, j'imagine que vous allez plus pouvoir parler au nom de l'Université de Caen. Mais en quoi est-ce que le Turfu répond à ce que se fixent ces structures comme objectifs? Je pense notamment, évidemment, plus aux étudiants, le fait j'imagine c'est aussi le fait de former des médiateurs scientifiques et des médiatrices scientifiques. Un événement comme ça est un excellent support, j'imagine.
Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'étudiant du master, en fait, on a dû créer et concevoir des ateliers qu'on anime cette semaine. Et du coup, c'est effectivement très formateur parce qu'il y a tout un aspect gestion de projet donc on doit gérer notre temps, comment on s'organise, on doit gérer de la communication aussi avec l'équipe de recherche, parce que la particularité des ateliers, c'est qu'ils sont tous faits en discutant avec une équipe de recherche. Donc il faut allier les impératifs de l'équipe de recherche, parce que eux en ont en termes de données qu'ils ont envie de récolter, et nos impératifs à nous en termes d'animation et de choses qu'on a envie de mettre en place. Donc effectivement, c'est très très formateur de pouvoir animer ce genre d'atelier.
Et alors, comment est-ce qu'elle se passe cette coopération avec le Dôme? Comment est-ce que vous travaillez ensemble pour monter ce festival, tout simplement? Comment ça se passe?
C'est une co-organisation, donc il y a un échange constant avec le Dôme. On se partage ce dont on a besoin, les différents problèmes qu'il peut y avoir. C'est une vraie organisation à deux, donc une organisation à deux têtes.
Sachant qu'avec le Dôme, effectivement, on est en collaboration pour le Turfu, mais aussi pour beaucoup d'événements, parce que notamment, tout à l'heure, je vous parlais du label SAPS. C'est un label qu'on a obtenu conjointement. Le Dôme et l'université, c'est lié aussi pour pouvoir obtenir ce label. Et donc, il y a vraiment aussi une discussion qui est vraiment presque quotidienne avec l'équipe du Dôme.
Oui, allez-y, continue.
Non. Donc, du coup, effectivement, on se connaît bien. Et le Turfu, c'est des choses qui se préparent en amont, des mois à l'avance.
Et il y a d'autres structures aussi qui sont impliquées dans le projet, j'imagine toutes les structures qui accueillent d'autres événements, mais déjà quel est leur niveau d'implication, et est-ce qu'eux aussi participent à l'organisation, ou la programmation c'est vraiment vous et le Dôme?
La programmation, ce serait plutôt le Dôme et l'université. Après, ça dépend si effectivement certaines structures sont porteuses elles-mêmes de projets, mais souvent c'est parce qu'il peut y avoir des liens avec des porteurs de projets, des gens qui sont en laboratoire, des scientifiques. La Maison de la Forêt, c'est... disons qu'il y a des partenariats, il y a des liens qui sont faits entre les structures qu'accueillent et les porteurs de projets, les gens qui sont en recherche, qui sont préexistants au Turfu. Et justement, l'idée, c'est de se dire que tous les projets qui sont présentés au Turfu, que ce soit les ateliers, les rencontres et tout, c'est autant des choses qui préexistent au Turfu, mais qui vont aussi continuer après. Ça va vraiment leur fournir aussi de la matière pour travailler. C'est des expériences aussi. Je pense notamment à l'atelier Jouer à débattre, qui aura lieu jeudi au CEMU à l'Université de Caen, qui est là plus basée sur un jeu de société. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec, avec le public, de leur faire tester ce jeu et de voir si eux, ils ont des retours, des remontées à faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille en collaboration et... Et enfin, j'arrête pas de dire le mot travail, mais l'idée que c'est qu'on n'est pas là pour travailler, on est là pour tester, pour échanger, pour s'amuser. Enfin voilà, mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a aussi, c'est bénéfique pour les. Enfin, j'imagine, j'espère, pour le public aussi, qui va revenir avec des nouvelles informations, des expériences vécues et tout. Et puis pour les porteurs de projets, c'est hyper important.
On continue de parler du Turfu Festival avec vous quatre, mais avant on va faire une pause musicale. Écoutez Sunshine de Johnny Carwash, à tout de suite dans C'est pas faux.
C'était Sunshine de Johnny Carwash. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix. C'est pas faux, ça continue. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'Université de Caen pour une émission consacrée au Turfu Festival. Nous sommes accompagnés de membres de l'organisation pour l'occasion. Marie-Lou Vernel, chargée de projets de culture scientifique à l'Université de Caen. Nicolas Houlage, technicien en médiation culturelle au SUAC. Ainsi que Audrey Hamon et Théodore Vigneault, étudiants du master information, médiation scientifique et technique.
Alors, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le Turfu Festival, c'est aussi l'occasion de venir pour obtenir des open badges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à quoi ils servent?
Un open badge, grosso modo, ça va être une image numérique que tout le monde va pouvoir aborder. J'ai oublié le terme, excusez-moi, mais tout le monde va pouvoir poser sur ses CV numériques, sa boîte mail, peu plusieurs choses. Et en fait, un open badge, ça va être un badge qui va permettre de reconnaître une compétence, et principalement une compétence informelle, donc toutes les compétences qui ne vont pas pouvoir être reconnues, que ce soit par un diplôme ou autre chose. Et ça va pouvoir mettre en valeur ces compétences, pouvoir les valoriser aussi. Et ça permet aussi de pouvoir mettre en connexion les personnes partageant ces compétences et pouvoir créer des réseaux à travers la France entière et même le monde entier.
Et pardon, lesquels on peut acquérir cette semaine, pardon ? Qu'est-ce qu'on peut... Oui, lesquels on peut acquérir, tout simplement ?
Des open badges spécifiques aux ateliers du Turfu ont été créés. Il y a notamment le badge « J'ai participé au Turfu », donc ce qui est normal, on participe en Turfu. Mais chaque atelier va avoir son propre open badge pour attester d'avoir testé telle ou telle compétence.
Et c'est aussi, j'imagine, une valorisation de la science participative. Pourquoi est-ce que c'est important comme ça d'impliquer le plus de monde autour des questions scientifiques, que ce soit pour le Turfu ou même au sens large ?
Pour pouvoir partager les connaissances et pouvoir aussi partager la science et que la science puisse se créer en fonction des besoins sociétaux aussi et qu'il y ait moins de désaffection des sciences au fur et à mesure du temps, que les personnes aient moins peur de la science et qu'elles puissent se construire avec les gens.
Et ce genre d'événement, justement, c'est aussi un bon moyen de rendre la recherche scientifique plus palpable, plus accessible et d'en avoir moins peur, en tout cas.
Bien sûr, parce que les ateliers sont faits de façon ludique, pour pas faire peur, mais surtout pour qu'il y ait un réel partage des connaissances, et les personnes vont pouvoir participer à l'atelier, partager leurs connaissances et voir que leurs propres connaissances, même si elles ne sont pas scientifiques de base, auront un réel impact sur le travail des chercheurs derrière.
Et du coup, alors Audrey Hamon et Théodore Vigneux, on le disait, vous êtes étudiants en master information, médiation scientifique et technique, et vous allez donc être particulièrement actifs sur ce festival. Quel va être votre rôle exactement ? Qu'est-ce que vous allez y faire pendant ces quelques jours ?
Alors nous, du coup, on est responsable. Pardon. Nous, du coup, on est responsable de la création de certains ateliers, en particulier ceux du samedi, et d'animer en fait tous ces ateliers. On est responsable de 6 ateliers qui permettent de présenter en fait des programmes de recherche participative qui ont été faits par le MNHN, c'est-à-dire le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc ils vont permettre de faire découvrir à la fois le programme au public, les enjeux, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces programmes sont importants, montrer que finalement tout le monde peut participer. En fait, c'est des programmes qui sont assez ludiques, qui sont faciles d'accès même sans connaissance préalable. Pardon. Et justement, c'est l'occasion de tester en fait ces protocoles-là. C'est surtout des protocoles qui sont tournés vers la biodiversité. Je pense notamment à un programme qui permet de découvrir en fait la biodiversité du sol. Il y a un atelier qui s'appelle Laboratoire des oiseaux, qui est fait avec le protocole Bird Lab et qui permet d'analyser en fait les comportements des oiseaux en créant sa propre mangeoire. Il y a un atelier sur les plantes urbaines. Donc c'est pour voir en lien justement entre la biodiversité et les aménagements des villes. Il y a un programme sur les papillons, la reconnaissance des papillons, leur rôle en fait dans la biodiversité et l'environnement. Et par exemple, nous, c'est un programme qui s'appelle le SPIPOL. Et c'est un programme qui permet d'identifier en fait et de suivre les insectes pollinisateurs. Donc on va en fait revenir sur les notions de qu'est-ce qu'un insecte, qu'est-ce qu'un pollinisateur, pourquoi est-ce qu'ils sont importants justement dans l'environnement, et on va permettre aux gens de pouvoir tester le programme en extérieur en fait, sachant qu'on a un plan B si jamais il pleut. Et le but c'est vraiment de faire découvrir ça à tout le monde, montrer que c'est assez ludique, que c'est marrant à faire, que c'est pour un public familial, et donc voilà.
Et Théodore le dit tout à l'heure, le Turfu Festival c'est un très bon... terrain d'entraînement pour vous qui êtes étudiant dans ce master. Et au-delà du fait de transmettre le goût des sciences, en quoi est-ce que c'est important de transmettre le goût de la transmission à travers le master que vous faites ? En quoi est-ce que c'est important, je parle, ça peut être aussi pour l'université hein, au sens large, en quoi est-ce qu'il faut former des gens qui vont aimer transmettre les connaissances scientifiques ?
Une question un peu délicate peut-être.
J'avoue que j'y avais pas vraiment réfléchi, mais former des gens à transmettre, en fait, je pense que ça peut être que bénéfique, dans le sens où, comme Nicolas le disait tout à l'heure, c'est important que la science fasse moins peur aux gens, pour que, pas tant pour faire monter en compétence les gens, mais plus pour répandre la connaissance, pour que, transmettre le plus de connaissances possible, il faut que le plus de gens possible soient formés à transmettre, justement. Donc,
Et vous, au sein de ce master, comment est-ce qu'on vous enseigne cette médiation scientifique? Comment est-ce qu'on vous transmet le goût de transmettre, justement, comme on disait à l'instant?
Et bah, ça va se passer plutôt du côté des intervenants du Dôme, parce que c'est eux qui vont nous faire tous les cours de techniques de médiation et d'animation. Et on voit ça notamment au travers de petits cas pratiques qu'on fait en cours, de simulations d'ateliers et même de projets comme le Turfu, où là on est directement jeté dans le bain et où on doit créer de A à Z un atelier en partenariat avec une équipe de recherche.
Et alors, on l'a dit, il y a vraiment différents publics. C'est un peu l'ambition, évidemment, du Turfu Festival. Comment est-ce qu'on s'adapte à son public et quelles sont les différentes manières de faire de la médiation selon, voilà, si on est face à des enfants, à des personnes âgées, à des adultes, à des habitués du milieu scientifique aussi?
Tout va tenir dans le fait d'adapter son discours, ne pas faire un discours trop compliqué pour des enfants, mais en gardant les infos essentielles. Et potentiellement, si on se rend compte que le public est un habitué de ce genre d'atelier, on peut aller plus loin dans les connaissances qu'on donne.
Est-ce que vous, à titre personnel, vous deux, ça vous donne envie de continuer à vous insérer dans des structures qui vont faire cette médiation scientifique? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on poursuit dans cette voie-là quand on a pu s'entraîner avant avec le Turfu? Quel est l'objectif final pour vous?
Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est travailler potentiellement dans des associations de culture scientifique. Donc effectivement, le Turfu, c'est super pour ça, parce que ça nous entraîne directement à faire des ateliers, et après on va pouvoir les valoriser, enfin on va pouvoir vraiment valoriser cette expérience pour appâter, entre guillemets, les futures structures dans lesquelles on pourra travailler, en disant, bah regardez, j'ai participé à ça, ça s'est super bien passé, maintenant je suis rodé, je peux faire tous les ateliers que vous me demandez.
Et en plus, tu pourras avoir un open patch.
Aussi.
Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que dans la façon aussi qu'on a de vous transmettre, enfin de vous enseigner la médiation scientifique, il y a une méthodologie aussi qui serait différente de d'autres études? Est-ce que là aussi, on est plus dans la participation, ou est-ce qu'on est quand même dans quelque chose de descendant finalement?
Non, là, le master est accentué sur les recherches participatives. Donc, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce que c'est la recherche participative, pourquoi c'est important d'en faire, à quoi ça sert, etc., qui est vraiment très présent. Donc, non, c'est vraiment pas descendant comme manière de construire.
D'autant plus que ça répond peut-être à un enjeu qui est très moderne aujourd'hui. Est-ce qu'on a un début d'intérêt pour la médiation scientifique? Est-ce que c'est quelque chose de très récent? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est en expansion? Est-ce que déjà, forcément,
en tout cas, on retourne
vers vous qui êtes un peu plus âgé, mais est-ce que c'est quelque chose dont on parlait déjà il y a 10-15 ans de médiation scientifique?
Je pense que je vais prendre la parole. Moi, parce que moi, la médiation scientifique, c'est un milieu dans lequel j'ai envie de travailler depuis quelques années maintenant. À la base, j'ai un parcours de scientifique pur et dur. J'ai commencé une thèse en neurosciences que j'ai arrêtée en cours de route. Et je l'ai arrêtée parce que j'avais vraiment la vocation de partir dans le milieu de la médiation scientifique. Et si j'avais cette vocation, c'est parce que j'ai vu que justement ce milieu de médiation scientifique se développait, et il se développe maintenant depuis quelques années. Et c'est une vraie volonté de la région d'axer le développement de cette médiation scientifique.
Ben merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Marie-Lou Vernel, que vous êtes chargée de projet de culture scientifique à l'Université de Caen. Nicolas Houlage, vous êtes technicien en médiation scientifique au SUAC. Ainsi que merci aussi à Audrey Hamon et Théodore Vigneault, étudiants du master information, médiation scientifique et technique. Merci beaucoup, bonne journée à vous et bon festival à tous les quatre.
Merci beaucoup.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant, voici l'agenda de la semaine. Et on commence évidemment cet agenda avec le Turfu Festival qui se tient jusqu'à ce samedi, on en a longuement parlé. Et ce soir, ce sont donc deux rencontres qui sont organisées à 18h, la première à l'Université de Caen avec Bruno Spire, médecin connu pour ses travaux et son activisme autour des problématiques liées au VIH. Et la seconde se tiendra au Dôme avec Geoffrey Lavigne, auteur et doctorant au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour plus d'informations ou pour retrouver la programmation complète du Turfu, rendez-vous sur le site turfu-festival.fr.
Et puis comme d'habitude, votre recommandation documentaire, zoom cette semaine sur le bizarre
business lucratif des ossements de dinosaures. Comment les sites naturels où se trouvent les fossiles se retrouvent pillés par des collectionneurs particuliers? La réponse dans ce documentaire, Dinosaures, la soif de l'os. C'est ce samedi à 20h55 sur Arte.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Anaëlle à la technique aujourd'hui. Merci aussi à l'Université de Caen pour sa mise à disposition de l'espace où nous enregistrons aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Pas de méridienne cette semaine. On vous laisse avec la belle playlist. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.